One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, bonjour, amis auditeurs, si tu nous reçois, c'est que toi aussi, tu as survécu au 21 décembre 2012.
Bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle. Enfin, on sait pas, hein, mais c'est
ça dépend
nouvelle.
Qui a survécu.
C'est ça. Ariane est avec nous.
Donc ça va, elle a survécu,
ah oui,
ça
non,
c'est
moi
une bonne nouvelle.
Je croyais pas à la fin du monde.
Tu croyais pas à la fin du monde?
Non.
Ouais, ça m'étonne pas. C'est ton côté... comment on va dire ça?
C'est ton côté.
C'est mon côté révolutionnaire, parce que la fin d'un cycle n'est pas la fin d'un monde.
Oh, ça c'est beau, c'est magnifique. Pour ouvrir cette dernière émission où on accueille Camille de Sel, et qu'on retrouve...
Plus exactement, j'ai été accueillie par Camille, puisqu'on va parler du lieu où elle m'a accueillie, en fait.
Alors moi, je suis très curieux, parce que, bon, on écoute ce premier son, mais après, il faut absolument que tu nous décrives plus précisément le lieu dans lequel elle t'a accueillie.
Moi, j'ai repris un bail emphytéotique, donc c'est un peu complexe au niveau juridique, mais enfin, c'était un bail de longue durée qui avait été consenti par le département. Et l'installation s'était faite dans un tout autre contexte, quelques années auparavant. Où,
c'était quand ces années-là? Parce que
alors, c'était au début des années 80, tout au début des années 80, où en fait, il y avait un combat syndical paysan, les ancêtres de ce qu'on appelle la Confédération paysanne maintenant, et qui avait négocié avec le département de l'Hérault pour remettre en culture les terrains qui sont au-dessus, là, sur le plateau qui est au-dessus. Voilà, donc petit à petit, à force de négociation, y a des gens qui ont pu s'installer. Pas beaucoup, ça a été fait un peu comme ça au compte-gouttes.
La remarque m'était cinglée, c'était par rapport à l'implantation sur le lieu, ou c'est un regard sur... Enfin, en même temps, qui dit ça, quoi? Je me demande si c'est un regard sur un monde rural, c'est...
Non, c'était les gens plutôt autour de la région.
D'accord.
Parce que le lieu, évidemment, il est beau, il est attractif, mais déjà au milieu des années 80, on n'était pas forcément dans la même considération, le même regard sur les zones naturelles, etc., etc. Même s'il y avait des gens qui étaient très convaincus, c'était pas, ça faisait pas partie des mêmes préoccupations sociales que maintenant. Et puis il y avait ce statut qui apparaissait comme un statut bâtard, en fait, où grosso modo on était chez nous, puisque le bail emphytéotique confère ce qu'on appelle un droit réel, donc on était considéré comme propriétaire, mais on n'était pas propriétaire, et le bail stipulait bien que le jour où on s'en allait, et ben tout ce qu'on faisait comme amélioration, ça revenait au département. Donc c'était prendre effectivement un gros risque. Alors après, quand on analyse ce risque en termes économiques pour les gens qui aiment bien aligner les chiffres, ben on se dit finalement peut-être qu'il vaut mieux faire un gros investissement au départ et considérer l'amortissement sur les X années du bail. Et finalement, ça revient à un loyer mensuel qui n'est pas si énorme que ça.
Enfin, qui voit cet investissement comme à perte est préoccupé par la transmission d'un héritage, en fait. Puisque le confort de vie dont on bénéficie soit quand on s'y trouve.
Alors c'est ce que je répondais effectivement, c'est que bah oui, mais moi j'ai choisi une histoire de vie avant de choisir une histoire d'entreprise. Donc voilà, bah, j'ai qu'une vie, a priori, hein, bon, les suivantes je ne sais pas, ou les précédentes je ne me souviens plus, mais donc a priori moi je m'inscris dans cette vie-là, et dans cette vie-là, ce lieu me plaît, l'activité que j'ai me plaît aussi, et donc j'ai envie de développer ça, et puis après bah, on verra bien.
Alors Dis-nous tout.
Alors que nous, au milieu des années 80, quand on refusait d'être emmené au bout de la nuit par les démons de minuit, Camille, elle reprenait...
C'est pas le début des années 80, ça, parce que je m'en rappelle. Parce que moi, début des années 80, je suis née, s'il te plaît. Alors déjà, ça m'a assise.
Comment tu peux te rappeler de ça?
Et là, c'est le milieu des années 80, Philippe.
C'est le milieu?
Oui, ça, on est
les démons de minuit, si, c'est la première... C'est sur la première compilation d'énergie la plus grande discothèque du monde. Je l'avais, ça. Alors, arrête.
C'était donc plus vieux que ça. C'est déjà une reprise.
Non, c'est
pas grave. On
va
pas débattre des démons de minuit. On a des choses plus intéressantes. Donc, c'est quoi un bail en...
Amphithéotique. Elle a expliqué.
Bah oui, ça par contre, elle l'a bien expliqué. Tu n'as pas écouté le son.
Bon, d'abord, tu m'as demandé de décrire le lieu. Alors,
décris-moi le lieu.
Donc, nous sommes sur la rive nord-est du Salagou.
Il y a une chute de bonnette là. Donc,
une chute de micro, même, mais plus que la bonnette. Et c'est Ghislain qui fait tourner la tête des micros. Et donc oui, on arrive, donc il faut monter pour accéder au hameau et ensuite on redescend sur le hameau. Donc on arrive, on a une espèce de vue plongeante sur le Salagou. Quand je suis arrivée, il n'y avait pas de vent, donc il était parfaitement réfléchissant, c'était super beau.
Tu parles
c'était
du
le
lac,
matin.
Hein.
Oui, tu es noire et réfléchissante.
Et donc il faut descendre encore un peu plus bas pour arriver, donc... c'est des chambres d'hôtes en fait le bâtiment.
D'accord.
C'est un bâtiment qui est de conception. Je ne sais pas si vous connaissez Cantercel. Enfin, moi, j'ai reconnu tout de suite la structure du toit. Enfin voilà, c'est un mode d'architecture durable. Voilà, Cantercel, c'est un collectif d'architectes qui est basé un peu plus haut, au-dessus de l'Odev. Enfin voilà, je connais un petit peu leur travail, donc j'ai reconnu la patte caractéristique. Donc voilà, c'est pas du tout une maison standardisée, carrée. C'est pas voilà, c'est une maison qui a un certain caractère aussi parce que donc les matériaux sont des matériaux vivants. C'est vraiment le bois, la terre, voilà. Et il y a cette vue sur le lac qui est quand même époustouflante. Donc nous on avait rendez-vous le matin, donc je suis arrivée à 10h du matin. Le soleil était encore assez bas. C'était vraiment magnifique, quoi.
Et donc, elle est conseillère municipale de Celles. C'est quoi Celles?
Alors Celles, c'est une commune qui a été menacée de disparition complète sous les eaux, donc à la création du Salagou, qui n'est pas un lac, c'est un étang, et au sens que c'est une étendue d'eau artificielle. Donc ce hameau-là, les Vaillées, faisait partie des terrains qui ont été... donc là, ça n'a pas été réquisitionné, ça a été des ventes à l'amiable, mais enfin voilà, fallait plus qu'il y ait d'exploitation agricole ou d'habitation, puisque c'était des terrains qui étaient peu ou prou promis à. Enfin, c'est pas l'Atlantide, mais c'est.
Ouais, voilà. L'inondation.
Voilà. Et permanente, je veux dire. Mm-hmm. Et donc en fait, le niveau d'eau n'a pas atteint ce qui avait été prévu, et le village de Celles. Du coup, n'a pas été entièrement mangé englouti par les eaux. Et donc, il y a toute une, tout un mouvement voilà, de réappropriation des espaces, donc à la fois des espaces naturels autour, puisque là, les baux amphithéotiques ne sont plus. Et il y a aussi beaucoup de projets autour de Celles en tant que lieu dit même, voilà, avec une mairie qui donc existe à nouveau depuis quelques années, etc.
Il y a combien d'habitants à Celles?
À Celles même, actuellement, c'est pas habité en permanence parce que, par exemple, il n'y a pas de traitement des eaux usées. Donc là, c'est en négociation. Enfin, c'est voilà. Mais tu nous as pas préparé ça dans les sons, Ghislain ?
Combien il y a d'habitants et tout ça ?
Non, l'histoire de l'évacuation
non.
d'eau.
Non, parce que je trouve que c'est plus intéressant quand tu nous le racontes.
Ah, bah, je vais peut-être on va écouter un peu ce qu'a préparé Ghislain, puis je compléterai si besoin.
On écoute.
À partir du moment où je m'inscris dans un lieu avec un environnement, je ne peux pas faire en sorte que l'environnement n'existe pas. Il existe, donc je m'inscris dans cet environnement-là. Et donc, si je peux à un moment donné à la fois être reconnu par les autres autour et moi les reconnaître et leur apporter un peu de mon énergie pour qu'ensemble on puisse construire quelque chose qui fasse que cet environnement soit agréable à vivre, je vais le faire. Le principe aussi de... parce qu'on pourrait débattre pendant longuement sur la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie ? Est-ce que nous vivons dans une société de démocratie ou pas, etc. En tout cas, si la démocratie a un sens aujourd'hui, elle le prend à minima à l'échelle loco-locale. Ce qu'on va pouvoir décider à l'échelle d'un village comme celle, d'une commune comme celle, on a effectivement des possibilités, on est obligé de se faire représenter comme à n'importe quel étage de nos sociétés structurées ainsi. Donc on est à un moment donné obligé de déléguer une part de son pouvoir décisionnel à d'autres, sauf que là on délègue à vraiment pas loin, parce que on est même pas une trentaine d'habitants dans le village en comptant les enfants et les vieillards, donc avec un conseil municipal de 9 personnes, on rassemble au moins tous les foyers, quoi, hein, grosso modo. Donc ça veut dire que tout le monde est sous l'arbre à palabre, et ça veut dire ce qu'on va inscrire dans les décisions communales, certes, il faut les mettre en perspective avec l'environnement autour de la commune, qui n'est pas justement le village gaulois, c'est-à-dire qui est intégré dans un environnement plus large, mais quand même, à cette échelle-là, ce qu'on peut inscrire comme décision, ça concerne tout le monde, et tout le monde a le droit de parole dessus. Ça va même plus loin, c'est qu'on a, je disais tout à l'heure qu'on était une commune atypique, on a une maire qui est vraiment atypique, elle aussi, et qu'on a pris le pli. Mais on ne l'a pas décidé, on n'a pas inscrit ça dans la loi à celle. Simplement, on s'est aperçu que c'était comme ça que ça marchait. On a pris le pli de ne jamais faire de vote au conseil municipal. Donc on doit être le seul conseil municipal de France où il n'y a pas de vote. Aucune décision ne se prend si à un moment donné, on n'est pas parvenu à un consensus. Si on n'y arrive pas, on reporte ça plus tard, quand ce sera mûr. Donc... il se peut qu'il y ait des décisions qui prennent beaucoup plus de temps que dans d'autres communes à se prendre, mais au moins quand elles se prennent, tout le monde s'est approprié la décision. Et là, ça a du sens. Ça a du sens, et en plus, on s'inscrit dans une histoire commune. C'est-à-dire que même avec des personnages aussi hétéroclites qu'ils le sont à l'intérieur du conseil municipal, eh bien, à chaque fois qu'on va décider quelque chose, il va falloir que chacun travaille sur le sens de ce qu'il mettait à la question posée, sur ses propres représentations par rapport aux autres, et donc chacun avance pour parvenir à une position commune, sinon il ne se fait rien.
Wow.
SLP, l'émission qui vous trouve le cucu.
Oh là là.
Mais tu nous le refais le wow.
Waouh!
Ça t'a épaté.
Bah ouais, c'est vachement. Et puis bon, on entend bien les gestes sur la table en
oui,
même temps quand.
Oui, elle parle avec les mains, Camille. Enfin, je sais pas si c'est ses mains qui font du bruit.
Oui, c'est elle fait des gestes sur la table, on entend les frottements et les. Ouais. Il y a une certaine éloquence quand même.
30 personnes, donc le village, dont 9 conseillers municipaux, c'est ça? Donc ça veut dire qu'il y a en gros. Enfin, un tiers du village qui est véritablement impliqué. Enfin, en plus, j'imagine que dans les 30 personnes et des enfants, ça veut dire que, pour ainsi dire, presque tous les adultes participent au conseil municipal. C'est ça ou je me trompe?
Parce qu'elle disait, c'est un membre de chaque foyer, quoi. Mmh. Voilà.
Mais c'est intéressant, là, parce qu'on est vraiment dans la démocratie de proximité, d'hyper-proximité. C'est neuf. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé. Enfin, c'est neuf. Tant si, pour notre monde, c'est neuf. C'est très ancien, mais c'est neuf. J'aime bien. Mais moi, ce qui m'intéressait justement, c'est ça, c'est cette proximité, c'est cette façon de faire qui est pas de notre temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout va vite. Il faut qu'on prenne les décisions hyper rapidement. Il faut que, parfois même sans réfléchir, il faut faire de l'esbrouf, de l'annonce, aller vite et tout ça. Et eux, ben, ils prennent le temps d'être d'accord. Tu vois ?
Ouais, de trouver à se mettre d'accord. Ouais.
Voilà. Et ce qu'elle dit, quoi, si on n'est pas d'accord, ben, c'est pas grave, on prend pas la décision. On laisse le temps à l'idée de cheminer dans les esprits. Tu vois, c'est vachement intéressant, ça.
Mais ça veut dire que forcément... Il faut que, enfin, ça ne peut fonctionner que sur une commune atypique, comme elle le dit. Autrement, c'est compliqué de fonctionner avec, enfin, je sais pas comment ça peut se passer avec les communes alentour, par exemple. Est-ce que vous avez échangé un peu sur ces points-là?
Par exemple, je sais pas si t'as gardé ça dans le deuxième son. Il y a, bon, pour différentes raisons, aujourd'hui. Malgré tout ce qui a pu être dit sur le millefeuille administratif français, etc., aujourd'hui, il y a en gros l'obligation d'être dans une communauté de communes. Et donc, cette question-là s'est posée pour celles.
Oui.
Et ils ont choisi de ne pas répondre tout de suite.
Parce qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord ?
Non, parce qu'ils considéraient que c'était éventuellement une mise en danger pour le patrimoine paysager que ça représente. Puisque c'est sur le lac du Salagou. Et il y avait des enjeux dans les différentes communautés de communes autour du lac, voilà. Et donc il y a une autre entité qui a déjà connu une fusion, du coup, maintenant. Puisque maintenant c'est l'Audévois et l'Arzac. Mmh. Et du coup, c'est de ce côté-là qui sont allés se rattacher pour que cette communauté de communes ait encore des rives du Salagou. Mais c'était aussi à un moment où c'était dans un esprit où ce serait préservé. Mmh. Ce serait pas pour faire un camping.
C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on pense d'abord au bien commun. Tu vois, c'est-à-dire ce village, c'est notre bien commun. On y vit, on y a... Voilà, c'est là où on vit, c'est là où peut-être on va travailler. Peut-être... Enfin, en tout cas, c'est un lieu qu'on aime, qui est à nous. Et donc, on fait en sorte que les décisions qu'on prenne ne l'abîment pas. Et tant qu'on ne nous fait pas des propositions qui vont dans le sens de « on n'abîme pas votre bien », eh ben, on dit non. Et c'est fort quand même, je trouve.
Oui, c'est vrai que c'est, au regard de ce qui se passe par ailleurs, c'est vraiment radical, quoi.
Oui, c'est radical.
Mais, et pour moi, c'est très radical, mais pour moi, c'est le sens premier de la politique.
Moi, je trouve ça hyper intéressant. Et, alors, je fais une analogie avec quelque chose dont on a parlé il y a quelques mois, parce que c'est quelque chose qui se fait comme ça sur à échelle locale. Et je pense à... Ce qu'a fait l'Islande récemment. Fuck la dette. Et
jouir.
C'est, c'est possible, je pense, sur des pays qui, ou à une échelle très locale, sans forcément fonctionner en autarcie, mais avec une communauté de culture, d'esprit, qui fasse que. Voilà, c'est en milieu préservé.
Mais bon, quand même, l'Islande, c'est pas la Corse, quoi. Hein. C'est un pays, quoi. C'est,
oui, oui.
Même peuplé, enfin voilà.
D'accord, mais.
C'est très loin de l'échelle de sel.
Oui.
Donc, c'est une façon de dire que finalement, c'est pas si. Enfin voilà, après, c'est une question de volonté et collectivement, ce soit perçu comme. Viable, quoi, comme possible. Mmh. C'est vrai qu'en ce moment, on nous rabâche beaucoup du « il n'y a pas d'autre solution ». Alors que c'est un discours qui a déjà été tenu, je pense, particulièrement sous l'ère Thatcher. Mmh. Voilà, on devrait avoir touché les limites de cette idée-là de « il n'y a pas d'autre solution ». C'est... On se fout de notre gueule, quoi.
Mais justement, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre bien qu'il y a d'autres solutions. Après, elles sont, on peut les mettre en œuvre, sans doute qu'il y a plein de choses à inventer, mais là, ce qu'on voit émerger, c'est des choses à échelle, encore une fois, très locale. C'est la commune de Celles, c'est l'Islande. L'Islande, même si c'est pas, effectivement, c'est pas la Corse, loin de là, mais ça reste un pays qui a une histoire particulière, un fonctionnement particulier aussi. C'est insulaire, c'est effectivement dans le monde occidental, mais avec une place très, très particulière qui a fait que il y a une énergie à un moment, enfin, il y a crise et puis il y a des énergies comme ça, des prises de conscience, des énergies nouvelles qui se mettent en place et un refus d'un certain système et, encore une fois, la mise en œuvre d'autres choses, quoi, à initiative citoyenne.
Ouais.
Mais ça veut dire qu'il y a, il y a d'autres choses possibles. Après, je pense que c'est d'autant plus compliqué quand on est... Quand je dis « on », c'est individu, c'est association, c'est des structures. Plus on est pris dans des structures avec des forces d'inertie qui peuvent être importantes, plus c'est compliqué effectivement de se sortir de ça pour inventer de nouvelles choses, inventer, non seulement inventer, mais s'apercevoir qu'il y a d'autres possibles.
Ben, c'est peut-être aussi parce que l'Islande, elle était en bas du bas, qu'elle était dans une situation complètement catastrophique, que ce pays a réagi comme ça.
Moi, je me pose la question du rôle des médias et de la classe politique et de la mixité de la classe politique, parce que pourquoi ça ne se passe pas la même chose en Grèce ?
Oui.
Et ce côté, voilà, il n'y a pas d'autres possibilités et qu'est-ce qui est donné, qu'est-ce qui est accessible en termes de philosophie, quoi, vision du monde et aussi pratique. Pour qu'on se dise, bah non, c'est possible de faire autrement et tout. Et encore aujourd'hui, qui nous en parle de l'Islande ?
Personne. En Grèce.
Nous, on s'en parle de l'Islande, stop, quoi. Enfin, il y a un moment, pour que ce soit possible, il faut que ce soit accessible, quoi. Donc peut-être que juste, ils n'avaient pas les mêmes espaces médiatiques, ou alors ils avaient des coopératives, des phalanstères cachés dans un coin qui avaient une vie locale qui faisait queue. Et voilà. Ou c'est les elfes qui les ont aidés, parce qu'il y a ça aussi chez les Islandais.
C'est pas des léprocones.
C'est ça, ce sont les elfes.
C'est pas des léprocones.
Léprochones, ouais. Bon, chacun son truc, mais oui, il y a un côté, enfin bon, de toute façon, on s'en sortira, parce qu'à un moment, quelque chose de la nature va aider, et il y a aussi, voilà, cet optimisme, où peut-être ils ont pu se dire, non, mais si on en sort, on en sortira aussi. Mais enfin voilà, moi je me pose la question sur voilà, qu'est-ce qui est rendu accessible, qu'est-ce qui est rendu possible, envisageable, quoi. Voilà.
Allez, pause musicale.
when I'm at work, you're sleeping in. You need to get a job. Did you never know how it's gonna go? How's it gonna end up tomorrow? You gotta try, try, try. I know it's hard, but you never know how it's gonna go. End up tomorrow. You gotta try, try, try. Girl, you gotta get a job. Oh, girl, you need to work real hard. I love to stay in party, but I gotta go to work. I love to stay in party, but I gotta go to work. I love to stay in party, but I gotta go to work. Work, 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 work. Experience. Who's gonna wire you the last of your inheritance?
Allez, ça c'était Gossip, Get a Job, c'est fait, la désannonce.
C'était une chanson de crise.
C'était une chanson de crise. Et on retrouve Camille, dernier son avec Camille, on l'écoute.
Et c'est hyper important de dire que même si c'est un lieu particulier, là ça marche comme ça, ça fait des années que ça marche comme ça, c'est maintenant accepté par les autres partenaires institutionnels, et... Moi, je trouve ça hyper
et en plus,
enthousiasmant.
Quand on,
quoi.
Quand on va lui donner une réalité de vie à ce village, lui redonner une réalité de vie, eh ben, ça va se faire au moins au début. Et on va mettre en place tous les outils possibles, même si c'est hyper complexe, pour garantir ça. Après, la vie est la vie. Et qu'en sera-t-il dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, je n'en sais rien. Mais au moins, on va mettre en place quelque chose qui ait du sens. Donc du sens pour nous, c'est ne surtout pas livrer ce lieu à la spéculation immobilière. Ce serait une catastrophe pour ce lieu. Après, la spéculation immobilière, il y en a partout. Donc si on dit ben, on sacrifie ça aux lois du marché, eh ben, ok, ce sera sacrifié aux lois du marché. Mais nous, tant qu'on s'inscrit dans cette histoire, non, on ne sacrifiera pas ce lieu aux lois du marché. Que par contre on travaille sur des choses liées à l'environnement parce qu'il est déjà dans un environnement exceptionnel et parce qu'on a cette fibre qui nous rassemble tous au sein du conseil municipal, etc. etc. Voilà, on a des fondamentaux et de ces fondamentaux, le projet de mixité sociale, un projet coopératif au niveau de l'habitat et au niveau des activités économiques qui pourraient se développer parce qu'il n'y aura pas de vie dans le village s'il n'y a pas d'activité économique, mais qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. On ne va pas en faire un village d'ordre. Un village vacances, on va pas non plus en faire une zone d'activité économique, quoi. Donc voilà, il faut qu'on mixe le tout et qu'on arrive à quelque chose qui a du sens. Et donc nous, on a nos fondamentaux et ces fondamentaux-là, on n'en déroge pas. Ça se fait pas tout de suite.
Donc aujourd'hui, ils sont toujours dans des logiques de fonctionnement avec consensus. C'est une logique. Qu'est-ce qui les guide? C'est que ça reste une logique de préservation. Elle parle aussi de mixité sociale, de tentatives pour développer des activités économiques. Qu'est-ce qui se passe concrètement en fait à ce point de vue-là?
Je pense d'abord l'objectif c'est le respect de l'humain, parce que ça veut dire quelque chose sur le vivre ensemble. Voilà, c'est aussi ce qu'elle disait de sa posture. Par rapport à sa volonté d'engagement ailleurs, que c'était sur l'humain que son intérêt se focalisait. Et pour donner un exemple concret que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, sur le hameau de Selles en lui-même, l'endroit qui est nommé Selles, puisque donc là, l'entretien il s'est fait au hameau des Vaillées, à Selles même, il n'y a pas d'assainissement pour l'instant. Donc il n'y a pas de possibilité d'une habitation à l'année plus nombreuse, etc., de ce fait-là, puisqu'il est hors de question de polluer le lac, enfin voilà. Il y a un entrepreneur qui arrivait en disant « Moi, je veux bien vous installer l'assainissement, même limite vous l'offrir, mais vous m'offrez le bâtiment le plus grand là qui est en bon état au bout de la rue et je vais faire un hôtel 3 étoiles dedans. » Ils ont dit non. Mmh.
Ils ont dit non parce qu'ils ne voulaient pas justement livrer ce... Voilà, qu'il y ait des hordes de gens qui viennent. Enfin, voilà quoi, que cette activité-là ne leur convenait pas.
Ouais.
Puisque c'est un lieu de vie, et oui, il y a le projet qu'il y ait une installation à l'année dans les bâtis anciens. Mais ce n'est pas ce type d'activité-là qu'ils veulent, c'est des activités qui fassent de la vie, une vie de village, quoi. Donc...
Affaire à suivre.
Voilà.
Moi, c'était un beau mois.
C'était un beau mois. Le dernier de 2012 et on se retrouve l'année prochaine. Ça vous va ?
Allez, joyeuses fêtes.
Ciao.